Il est 6h20 et l'invité du 5-7 ce matin est Jean-Yves Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois président du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, et président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne. Et vous n'allez pas chômer dans les prochaines semaines. La fin d'année promet d'être très dense en termes d'exploration spatiale pour la France, avec la concrétisation de nombreux projets que vous allez présenter aujourd'hui dans une conférence de presse. Et je suis ravie que vous veniez nous en parler avant ici à France Inter. Quand on parle d'exploration spatiale, on pense toujours à la Lune ou à Mars. Le mois prochain va être lancée une mission d'exploration de Mercure. C'est une planète qu'on ne connaît pas très bien encore.
C'est une planète où on est allé une seule fois et encore de très très loin. Alors c'est la planète la plus proche du Soleil. Vous avez le Soleil, après vous avez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, les astéroïdes et puis les planètes extérieures, les planètes gazeuses. Mais donc Mercure est une sorte de caillou calciné proche du Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment cette planète se comporte. C'est un peu l'histoire du système solaire, l'histoire aussi des interactions entre le vent solaire et la planète. Et donc c'est pour ça qu'on y va avec cette mission absolument extraordinaire qu'on va lancer depuis le Centre Spatial Guyanais, si tout va bien, le 19 octobre. C'est une mission qui est faite par l'Agence Spatiale Européenne, la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, où la France apporte 12 instruments scientifiques de premier niveau, et avec un très long voyage, puisqu'on arrivera sur Mercure, enfin en orbite de Mercure en 2025.
Et vous collaborez d'ailleurs aussi avec les Japonais pour une autre mission prévue également le mois prochain. Là, c'est pour étudier le sol d'un astéroïde.
Voilà, donc le mois prochain, nous avons, je dis toujours, vous avez aimé Philae, vous adorerez Mascotte, puisque la sonde Hayabusa 2, qui est une sonde japonaise, embarque à son bord le petit robot Mascotte qui va se poser sur l'astéroïde Ryugu. Ça sera le 3 octobre à 4h du matin, heure d'Europe. On a déjà vu les photos de Ryugu, on va se poser, ça va être encore un moment extrêmement intense.
Allez, on donne un dernier exemple, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Autre programme, là cette fois sur Mars, en collaboration avec la NASA. Et là, c'est pour mesurer les tremblements de terre sur cette planète, si j'ai bien compris.
Oui, alors c'est InSight que nous avons lancé. Donc c'est une mission franco-américaine qui a été lancée le 5 mai depuis la Californie et qui va se poser le 26 novembre sur Mars. Alors Mars, on a une étude Mars et on a besoin de savoir si le noyau de Mars est liquide ou solide, parce que c'est un élément très important pour comprendre pourquoi les océans qui existaient sur Mars ont disparu. Et pour cela, eh bien, on va poser à la surface de Mars un sismomètre français qui a été développé par le CNES, réalisé par une société française, Soderne, et on va mesurer les tremblements de terre de Mars. Donc là aussi, si tout va bien, 26 novembre vers 20h, il y aura une retransmission en direct, notamment à Toulouse, à la Cité de l'Espace, à Paris, à la Cité des Sciences. Se poser sur Mars, ça n'arrive pas tous les jours.
Non, et ça, je vous
voilà,
confirme.
Et ça va encore être un moment extraordinaire.
Jean-Yves Le Gall, toutes ces missions coûtent très cher. Il y a toujours plein de gens qui se disent à quoi ça sert de dépenser autant d'argent. On a des résultats. Donnez-nous un ou deux exemples de découvertes majeures récentes.
Les découvertes majeures récentes, c'est Philae qui s'est posé sur la comète Chury et qui a mis en évidence des molécules organiques qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire c'est l'origine de la vie, comprendre les origines de la vie. On a des missions aussi, alors on a parlé des planètes, mais on observe la Terre, et notamment pour tout ce qui est changement climatique, il faut savoir que quand on s'intéresse au climat, 50 variables essentiels déclivent le climat, et sur ces 50, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observés que depuis l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que à la deuxième édition du One Planet Summit dans 10 jours à New York, le 26 septembre, eh bien on présentera l'Observatoire spatial du climat. Donc le spatial est partout, et le spatial c'est un peu comme la prose et Monsieur Jourdain, on s'en sert sans s'en rendre compte, mais vous dites ça coûte cher, mais ça rapporte encore beaucoup plus.
Dans tous ces projets, quel rôle joue la France? Est-ce qu'elle est à la pointe dans la recherche spatiale?
La France est à la pointe dans la recherche spatiale, et je dirais pour trois raisons. La première, il y a toujours eu une volonté politique depuis le général de Gaulle, la création du CNES en 1961, et je dois dire que depuis un an, nous sommes bien servis avec Emmanuel Macron, qui a un intérêt très très fort pour l'espace.
Donc, pourtant, il y a plein d'économies partout. Vous, ça va, question budget, vous vous en sortez bien?
On s'en sort bien parce qu'on a aussi des résultats. Donc première raison politique. Deuxième raison, la France est une terre d'ingénieurs, et nous nous avons des ingénieurs, des scientifiques du meilleur niveau mondial. Il faut voir que quand même, nous avons conçu les fusées Ariane. Toutes ces missions scientifiques, il y a une communauté française excellente qui est à la pointe de ce qui se fait. Et puis la troisième raison, c'est que la France a une vocation de coopération internationale. Le CNES coopère avec pratiquement toutes les agences spatiales du monde entier et ça nous permet de faire des missions en coopération avec une stratégie de niche, c'est-à-dire on met un peu d'argent et on a un extrême bénéfice et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut, la France est la première en Europe, mais joue un rôle très important au niveau mondial.
Vous parlez de coopération, il y a aussi de la compétition dans l'espace, une compétition pas toujours amicale. La ministre des Armées a récemment révélé qu'un satellite russe avait espionné l'un de nos satellites militaires, c'était il y a un an, à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Florence Parly a dit « La guerre des étoiles, ce n'est pas de la science-fiction ». Vous êtes d'accord ?
Bien sûr, la guerre des étoiles, ça existe. Alors, vous savez, ça fait partie, c'est comme la guerre sous-marine. Ce sont des choses dont on parle peu. Donc là, on commence à en parler.
Oui, c'était étonnant qu'elle en parle d'ailleurs. Normalement, on raconte pas ce genre de choses.
Mais nous sommes là aussi tout à fait prémunis. Donc, il y a trois programmes spatiaux militaires majeurs qui sont dans les cartons. CSO, qui sera probablement le satellite d'observation à des fins militaires le plus performant au monde, dont le premier exemple. Nous allons le lancer depuis le centre spatial guyanais d'ici la fin de l'année. Un système qui s'appelle CERES pour l'écoute électromagnétique et puis les télécommunications sécurisées avec Syracuse. Donc là aussi, la France est en pointe.
Quel est le type d'arme, le mot est maladroit, hein, mais qu'on utilise pour cette guerre des étoiles? Vous parlez beaucoup de satellites. On a du mal à voir ce qui peut y avoir. J'ai lu qu'il y avait des lasers aussi qui étaient en train d'être...
Oui, alors là, il faut faire la part entre ce dont on parle et la réalité. Il n'y a pas d'armes dans l'espace. Dans l'espace, on peut écouter, on peut espionner, on peut aller se rapprocher. Donc, le satellite dont a parlé la ministre fait partie de ce que nous appelons les satellites butineurs, c'est-à-dire des satellites qui vont à côté des autres voir comment ça se passe. Mais il n'y a pas d'armes. Mais le renseignement dans l'espace, c'est finalement peut-être la principale des armes.
Jean-Yves Le Gall, que pensez-vous du développement du tourisme spatial ?
On en parle beaucoup, pour l'instant on n'en voit pas beaucoup.
Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que l'espace doit rester le précaré des scientifiques ?
Non, pourquoi pas. Mais la difficulté, ce sont les prix, parce que les quelques touristes qui sont allés dans l'espace sont allés avec des Soyouz russes à bord de la station spatiale internationale ou de Mir. Le ticket, c'est 20 millions de dollars. Alors, aux États-Unis, on parle de prix qui sont un peu plus bas, mais enfin, qui sont quand même pas accessibles au grand public. Et puis, là encore, il faut que ça se fasse.
Et le CNES pourrait se lancer là-dedans ?
C'est pas notre priorité aujourd'hui parce que vous l'avez compris, c'est quand même un peu fantaisiste.
On le disait, ça coûte quand même très cher, toutes ces missions. Pour récupérer plus d'argent, la NASA envisage de développer la publicité, de mettre par exemple le nom d'une marque sur ses fusées ou même de faire tourner ses astronautes dans des spots de pub. Sachant que j'ai lu, dites-moi si c'est bien vrai, que Pizza Hut l'a déjà fait une fois. Sur une fusée russe.
Oui, j'étais au lancement, c'était il y a une dizaine d'années.
Vous en pensez quoi ? C'est une piste intéressante ça ?
Oui, ça, on en parle beaucoup, mais ça rapporte pas beaucoup parce que vous savez, les budgets dont on parle se chiffrent en milliards d'euros. Bon, les publicitaires, leurs budgets sont quand même significativement inférieurs. Mais on en parle beaucoup.
Et pour l'image, au-delà de l'intérêt financier pour l'image, une fusée avec, je sais pas, une marque Pizza Hut et tout, c'est bof. Ouais, vous êtes pas emballé.
J'ai pas d'avis particulier. Bon, mais pourquoi pas ? Vous savez, on fait de la publicité un peu partout. Mais là aussi, ça montre que le spatial est définitivement dans la vie quotidienne et à partir de là, bien, c'est normal. Qu'il adopte les codes de la vie quotidienne.
Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall, président du Centre National d'Études Spatiales et président du Conseil de l'Agence Spatiale. Vous étiez l'invité du 5-7 d'Inter ce matin.